Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Écoutez le français sur Radio SBS.
Elle écrit compulsivement et porte la culotte ou les oreilles de bunny comme personne. Elle nous a fait rire et parfois pleurer à l'occasion de son retour sur le grand écran. On parle de la seule et unique Bridget Jones avec Valentine Sabourou.
Bonjour, bonjour à tous. On l'a aimée trentenaire, célibataire et souvent à côté de la plaque. On la retrouve aujourd'hui mère de famille, veuve et toujours aussi décalée. Bridget Jones, 52 ans, anti-héroïne aussi déjantée qu'émouvante, revient sur nos écrans pour un quatrième opus intitulé Mad About the Boy, folle de lui en français. Deux jours après la Saint-Valentin, elle nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour chercher le prince charmant, même si la tâche est ardue, et que ledit prince n'est pas forcément celui qu'on croit. D'ailleurs, existe-t-il vraiment ?
Bridget Jones, c'est une grande amoureuse moderne qui est née dans la presse.
Et oui, avant d'être la blonde en pyjama la plus échevelée du cinéma, Bridget Jones a d'abord été un personnage de feuilleton, puis de roman. On peut ainsi considérer qu'elle est née en 1995 dans les pages du journal The Independent. À l'époque, l'un de ses éditeurs, Charlie Leadbeater, cherche à rajeunir et féminiser son lectorat. À cet effet, eh bien, il a l'idée géniale de créer un feuilleton court et léger pour lequel il va chercher la plume idéale. Sa femme lui recommande Helen Fielding, qui a déjà fait ses preuves à la télé et même au cinéma. L'heureux hasard, a raconté Leadbeater plus tard, a ainsi voulu que nous trouvions la bonne personne avec la bonne voix, dans le bon format et au bon moment pour créer quelque chose qui semble parfaitement articulé. Et c'était incroyablement drôle. D'abord relégué loin dans le journal, le feuilleton finit par trouver son public au point que The Independent est inondé de courriers de lectrices. C'est le début d'une grande histoire. Le feuilleton paraît ensuite en livre, le journal de Bridget Jones, lequel devient un film qui lui-même se transforme en saga. Helen Fielding, en 2016, dans l'émission This Morning, revenait sur ce succès.
I think it's because when I first started writing it, it was anonymous. I thought it was just a column in The Independent. I thought it'd be stopped after 6 weeks for being too silly. And so that allowed me to be really honest about what it feels like to be a woman.
Yeah.
And I think it's really about the gap between how we all feel we're supposed to be and how we really are.
Le personnage de Bridget Jones est inspiré de la propre vie d'Helen Fielding, mais également de l'œuvre de Jane Austen.
En effet, quand elle commence à écrire, l'autrice est une célibataire d'une petite trentaine d'années qui vit et travaille à Londres. Il y a donc des similitudes évidentes entre elle et Bridget Jones. Quant à l'intrigue, Helen Fielding a reconnu s'être inspirée sans vergogne d'Orgueil et Préjugés, le célèbre roman de Jane Austen qu'elle adore. Comme Elizabeth Bennet d'ailleurs, Bridget Jones commence par être en prise avec des parents maladroits qui cherchent à tout prix à la marier, alors même que son cœur balance entre deux hommes que tout oppose. Maintenant, Bridget Jones a évidemment sa propre personnalité. À ses débuts, tout du moins, elle est accro à son journal, gaffeuse, excessive et mal assurée. Elle fume trop, elle boit trop et elle promène quelques kilos en trop. Ce qui ne l'empêche pas d'être terriblement drôle et attachante. Bref, elle est le miroir honnête de toute une génération de femmes qui se retrouvent en elle.
Resolution number one, lose 20 pounds. Number two,
drink less.
Very bad start to the year. We'll persevere with resolution to find a nice, sensible man.
How about a drink at my place? Totally innocent, no funny business, just full sex.
Bridget Jones doit aussi beaucoup à son incarnation à l'écran et je parle évidemment de Renée Zellweger.
Et croyez-le ou non, elle n'était pas le premier choix de la production. Au départ, il était question de Toni Collette, puis de Kate Winslet, laquelle s'est avérée trop jeune finalement puisqu'elle avait 24 ans à l'époque. C'est donc Renée Zellweger qui a été sélectionnée et sans regret, outre sa prise de poids pour le rôle, 12 kilos quand même, et le travail sur son accent, elle a tout donné au point de décrocher une nomination aux Oscars en 2002. Elle a conservé le rôle dans toutes les suites, L'âge de raison, Bridget Jones Baby et enfin Folle de lui qui vient de sortir en Australie. En tout, elle l'aura incarné sur une durée de 25 ans, un cadeau selon l'actrice qui évoquait récemment l'évolution de son personnage que l'on retrouve aujourd'hui, changé par les aléas de la vie et par le deuil.
So, figuring out how that sort of manifests in who she is now and also how she hasn't changed, which is equally important.
Yeah.
Her joy, her imperfection, that things don't necessarily go to plan. All of these things, her optimism, still familiar, I think.
À tous les nostalgiques, mais aussi à la génération Z qui s'est prise d'amour pour Bridget Jones, je vous invite donc à venir retrouver notre héroïne sur les écrans. Elle y est en très bonne compagnie, puisque le casting inclut le retour de Hugh Grant en sexagénaire foufou, ainsi que de deux petits nouveaux, Chiwetel Ejiofor et Leo Woodle.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Les Rita Mitsuko et leur chanson mythique, hein, leur première chanson, leur premier succès en tout cas, Marcia Baila, retour dans les années 80 en ce dimanche sur Radio SBS. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Deuxième partie donc d'Europa Voice avec notre analyste Nathanaël Bloch. Alors, reparlons maintenant du Brexit. Ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé de ce Brexit. Énormément de choses se sont passées et à la fois, pas grand-chose. La Grande-Bretagne est donc sortie de l'Union européenne. Tout le monde connaît cette histoire. Il semblerait qu'il y ait quand même quelques regrets de l'autre côté de la Manche. Hein.
Alors, 5 ans, déjà joyeux anniversaire.
Ouais, déjà, merci. 5 ans déjà.
Ça fait 5 ans que ça nous donne du grain à moudre ici à Europa Voice.
Ça nous a donné des idées au départ et c'est vrai qu'on est encore en train d'en parler 5 ans après, c'est vrai.
Bah parce que c'est un autre Madeleine de Proust et puis c'est aussi...
Mais pour de bonnes raisons.
Pour de très bonnes raisons et puis aussi c'est la politique en marche, c'est-à-dire que il y a un côté tâtonnement, c'est-à-dire que quand ce Brexit a été...
On s'est aperçu que les politiciens ne savaient pas tout.
Mais ils ne savaient pas tout, surtout ils ne savaient pas forcément... anticipé, et puis après, c'était un peu trop tard. Non, mais pour être plus sérieux, en fait, il y a effectivement un sondage YouGov qui est paru il y a quelques jours au Royaume-Uni, et il y a plus d'un Britannique sur deux, j'insiste, plus d'un Britannique sur deux, près de 55%.
Donc, une majorité.
Oui, là, voilà, qui estime que quitter l'Union européenne lors du Brexit était, et là, je cite les termes de ce sondage, alors je le traduis de l'anglais en français, mais était une erreur. Il y a plus d'un Britannique sur deux, c'est incroyable, après ça, plus d'un Britannique sur deux qui estime que le Brexit et quitter l'Union européenne était une erreur 5 ans après.
Mais est-ce que, en connaissant bien, voire très bien, les Anglais, il y a le fait d'admettre que c'était une erreur. Il y a aussi, par contre, on n'a pas, on parle pas de revenir en arrière. On parle pas de de rejoindre l'Union européenne. En tout cas, pas tout de suite. C'est pas au cœur du débat. Aujourd'hui, on peut avoir des regrets. Il y a ce certain flegme britannique qui dit, OK, peut-être on a eu tort, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas une discussion aujourd'hui vers un retour de l'Union, au sein de l'Union européenne.
Un petit sentiment de fierté, Christophe, peut-être?
Ouais, on va dire que, voilà, on va dire que je bouge les épaules d'une certaine autre façon. Oui, c'est clair.
Non, mais effectivement, il y a une espèce d'entre-deux, hein, d'en même temps. On adore ce terme ici, qu'on reprend à souhait au président Emmanuel Macron. Mais il y a effectivement, admettre que ça a été une erreur. Il n'y a pas le souhait de revenir dans l'Union européenne. Alors,
Il n'y a pas le souhait explicité. Hein. Le souhait, il est peut-être déjà
voilà,
là, mais
pas, en tout cas,
il y a un certain flingue qui fait qu'on ne va pas admettre l'erreur jusqu'au bout.
Non, mais il y a un entre-deux qui est de garder des liens avec l'Union européenne et peut-être de solidifier ces liens avec l'Union européenne.
Mais est-ce que c'est parce que les Brexiteurs voulaient, de toute façon, garder certains liens avec l'Europe? Il n'y a jamais eu... Bon, il y a eu des hardcore qui étaient vraiment, faut tout couper, on va ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles routes de la soie, comme vous l'avez dit. Mais le gros du public... en général, pensait que on pourrait, les Britanniques pourraient garder un certain lien avec l'Europe, qui pourraient choisir sur quelle telle ou telle partie de la négociation européenne ils pouvaient jouer, impacter ou pas.
Je pense qu'il y a deux éléments à ça, Christophe. Il y a d'abord le fait qu'à mon avis, les dirigeants britanniques de l'époque, et je n'incrimine personne, hein, les différents leaders britanniques qui sont...
Mais allez-y, j'ai une liste.
à mon avis, aucun d'entre eux n'a à la fois anticipé deux choses. Aucun d'entre eux n'a anticipé, à mon avis, la globalité des conséquences de ce Brexit. Ça, c'est la première chose. Mais encore une fois, c'était la première fois que ça arrivait. Donc, c'était même si on pensait à certaines pistes, c'était difficile d'anticiper les conséquences. Donc, je pense que les leaders britanniques ont un peu sous-estimé la gravité des conséquences. Et je pense aussi que les leaders britanniques, à l'époque, n'ont pas anticipé, finalement, le respect par les Européens du choix souverain britannique. C'est-à-dire que les Européens, finalement... Non pas qu'ils ont, et crédite tout Michel Barnier, non pas qu'ils ont lâché le Royaume-Uni à l'époque, mais ils ont tout simplement dit...
Appliquez leur décision.
Appliquons maintenant votre décision. Ils n'ont pas tenu les Britanniques par la manche en disant il faut absolument que tu restes. Mmh. Et ça, je pense qu'aussi, les dirigeants
britanniques... Ça a dû piquer un peu quand même.
Bah oui, je pense que les dirigeants britanniques n'ont aussi pas totalement anticipé le fait qu'on n'allait pas les retenir ad vitam aeternam. Et donc maintenant, effectivement, on est dans une situation où, toujours d'après ce sondage YouGov, il y a plus de deux tiers des interrogés qui sont en faveur, alors il faut le définir après, mais qui sont en faveur de rapports étroits avec l'Union européenne sans toutefois rejoindre l'Union. Et il y a un petit peu moins de deux tiers de ces personnes interrogées qui pensent que le Royaume-Uni ne devrait pas relâcher ses liens avec l'Union européenne. Donc il y a encore cette volonté quand même, sans vraiment le dire, d'avoir des liens privilégiés. Est-ce que ces liens privilégiés, ça veut dire... en termes tarifaires, est-ce que ça veut dire en termes de déplacement de personnes? Mais en tout cas, voilà, il y a un regret quand même, Christophe, 5 ans après.
Ce qui est intéressant dans tout ça, il y a des modèles qui fonctionnent avec l'Europe comme ça. Il y a un modèle suisse, par exemple, qui fonctionne. La Suisse qui n'est pas au sein de l'Union européenne, mais qui a une relation plus que privilégiée avec tous les pays de l'Union européenne. Et aussi, surtout, il y a une attitude européenne qui n'est pas revancharde. Je ne pense pas qu'au niveau de Bruxelles ou Strasbourg, on soit en train de se dire on va leur donner une leçon assez britannique. On va forcément, du côté européen, on va essayer de faire fonctionner tout ça. C'est dans l'intérêt, on en parle beaucoup ici, encore une fois, on fait retour sur beaucoup de citations, mais c'est du win-win pour tout le monde. Et l'Europe, il voit aussi son win-win là-dedans. On n'est pas là en donneur de leçons. L'Europe n'est pas là en donneuse de leçons.
Non, l'Europe n'est pas là, Christophe, en donneuse de leçons, mais l'Europe considère maintenant ses relations bilatérales avec le Royaume-Uni, on va dire presque comme n'importe quelle relation.
Comme le Canada, comme l'Australie. Hein.
Exactement.
Il y a des accords de libre-échange qui sont discutés avec ces pays-là.
On en est au 15e rang, vous mentionnez l'Australie, ici à SBS Europa Voice, on en est au 15e rang, je crois, de négociations pour arriver à ces accords bilatéraux, ces accords commerciaux, de ce qu'on appelle de free trade agreement en anglais, entre l'Union européenne et l'Australie. Et il n'y a pas de honte à le dire, mais ça prend en compte n'importe quel petit détail, quelle appellation, parce qu'une fois que l'accord est signé, effectivement, on n'a pas envie qu'une partie inonde l'autre partie, l'autre marché, avec un produit qui est de la concurrence déloyale, etc. Donc en fait, il n'y a pas de revanche de la part de l'Europe, mais il y a une réalité qui est que maintenant, elle va traiter, ou elle devrait théoriquement traiter avec le Royaume-Uni, comme avec n'importe quel autre ensemble étatique, géopolitique, s'il faut signer des partenariats, des accords de libre-échange, etc. Et puis, en fait, pour les Britanniques, j'allais dire, si on prend les différents secteurs, c'est pas tellement le secteur financier qui a souffert, même s'il y a eu beaucoup de départs de la City vers d'autres places financières à Francfort ou à Londres notamment.
C'est les secteurs qui étaient déjà très affectés, comme
l'agriculture, par exemple.
L'agriculture, la pêche.
Exactement. C'est ces secteurs qui étaient déjà problématiques, sous tension. Où il y avait déjà.
Et donc, du coup, à l'époque, on voyait, et là, c'est vrai qu'on peut aussi en être fier, mais à l'époque, on voyait l'Europe comme la source des problèmes. Mais aujourd'hui, les Britanniques, ils se rendent peut-être compte que la source des problèmes, elle n'était pas que européenne. Aujourd'hui, les pêcheurs, aujourd'hui, les agriculteurs qui critiquaient énormément la politique agricole commune, aujourd'hui, peut-être, ils se rendent compte qu'ils ont bénéficié aussi de la politique agricole commune.
Évidemment. Alors, peut-être moins que dans d'autres pays comme l'Espagne
ou la France.
Ou la France. mais effectivement, le Royaume-Uni bénéficiait des mêmes largesses, appelons-les ainsi, que n'importe quel pays membre de l'Union européenne. Donc voilà, encore une fois, les secteurs qui étaient déjà problématiques, où ça gueulait déjà d'une certaine façon, ouais. Christophe, bah, le gap est encore, le fossé est encore plus grand. Et l'agriculture, notamment, la pêche, en est un.
Ouais. Et juste pour conclure, ça veut dire quoi sur le plan politique en Grande-Bretagne, parce que il y a eu une scission avec les extrêmes, Nigel Farage, qui est le grand instigateur de tout ça, n'est plus vraiment dans l'échiquier politique. Il y a eu énormément de gens qui ne sont plus dans l'échiquier politique aujourd'hui. Ça laisse un certain héritage à des nouveaux politiciens, j'allais dire, en Grande-Bretagne. Ça veut dire quoi aujourd'hui sur cet échiquier britannique?
Bah déjà, ça veut dire effectivement que les personnes aux responsabilités en Grande-Bretagne finalement doivent faire le service après-vente du Brexit, et je pense notamment à Keir Starmer, qui lui doit gérer cette situation-là.
Au final, c'est lui qui gère avec tout ça. Hein.
C'est lui qui gère avec tout ça, avant, hein. Et c'est aussi lui qui doit gérer, j'allais dire, par rapport aux problématiques nationales pour son parti, pour les travaillistes, les nouveaux travaillistes d'une certaine façon. Pour moi, il y a un côté un peu Blair dans les défis auxquels Starmer est confronté. Et l'Union européenne, en fait, pour moi, fait partie d'une partie des défis pour le dirigeant travailliste britannique. Maintenant, encore une fois, la question, elle n'est pas pour lui de rejoindre de nouveau l'Union européenne, mais la question, elle est de savoir comment, de la même manière que certains leaders britanniques ont pris la décision de mettre la sortie de l'Union européenne sur la table, lui, comment il va mettre sur la table la possibilité pour la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, de ressouder, retisser les liens avec l'Union européenne. Et puis, signalons-le, parce que c'est quand même important, rien n'oblige. De l'autre côté, les Européens, et soyons francs, c'est pas du tout une priorité du second mandat de von der Leyen, la relation avec le Royaume-Uni. C'est un dossier à expédier ou à traiter comme d'autres. Donc, j'allais dire, l'Union européenne est plutôt dans une situation confortable et elle analysera au cas par cas les propositions qui sont faites par le Royaume-Uni sur cette question-là.
Ce qui nous donne l'opportunité d'en reparler maintes et maintes et maintes et maintes fois dans Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Continue sur le thème des années 80, les négresses vertes avec C'est pas la mer à boire en ce dimanche sur SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on a le plaisir d'avoir Boris Charmatz avec nous au téléphone. Il arrive pour quelque chose d'exceptionnel à Adélaïde. Bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez-nous un petit peu à quoi on peut s'attendre à Adélaïde, parce que c'est quelque chose, je l'ai dit dans l'introduction, quelque chose d'exceptionnel. Club Amour au Festival d'Adélaïde. Je vais vous laisser le décrire parce que il y a personne d'autre que vous qui pouvez mieux le décrire que vous, en fait.
Rebonjour, voilà, je suis chorégraphe et je dirige le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, la compagnie que Pina Bausch a fondée il y a plus de 50 ans. Et on est invité à venir à Adélaïde, donc pour notre plus grand plaisir, pour présenter un triple programme avec tout d'abord une pièce légendaire de Pina qui s'appelle Café Müller, pour 6 interprètes. Et puis, on a ajouté à cette pièce qui fait une quarantaine de minutes, on a ajouté un trio qui s'appelle Attention, que j'ai chorégraphié il y a très longtemps aussi, et puis un duo. Et du coup, ça fait une soirée qu'on a appelée Club Amour parce que dans ces trois pièces, il y a une circulation du désir contrarié, du fait de vouloir se rencontrer, se toucher, danser ensemble et que c'est aussi en partie impossible d'une certaine manière dans ces trois pièces, même si le dernier duo qui s'appelle Hers, que je danse avec Johanna Elisa Lemke, le dernier duo est une sorte de fusion à deux, donc on pourrait dire que ça résout un peu une partie des problèmes, mais voilà, donc c'est une pièce, c'est une soirée très particulière parce qu'il y a le chef-d'œuvre de Pina qui est vu en frontal comme ça sur scène, mais ensuite les deux autres pièces sont faites sur la scène avec le public sur la scène, donc ça tout le monde se déplace, tout le monde vient près des danseurs, nous voit comme ça à très courte distance, et je dirais qu'on c'est une soirée du coup qui est très qu'on se prend je sais pas si le mot est choisi et bien choisi, mais on se le prend en pleine poire.
D'accord, ok. J'allais dire on se prend au jeu, mais on peut se le prendre en pleine poire aussi, ouais.
Bah c'est plus subtil de dire on se prend au jeu. J'espère que vous allez vous prendre au jeu.
Ouais. Ces trois spectacles, vous les avez déjà mis ensemble ou c'est une première?
Alors on les a mis ensemble la saison dernière et Ruth McKenzie, la directrice extraordinaire du Festival d'Adélaïde, est venue jusqu'à Wuppertal pour voir ce programme et a décidé de nous inviter à Adélaïde. Donc c'est une grande chance pour nous. Le travail de Pina n'a pas été montré depuis très longtemps. La dernière fois, je crois que c'était au Festival d'Adélaïde justement. Et mon travail aussi, j'ai eu la chance d'être invité à Sydney, à Perth, et je suis ravi, je connais pas Adélaïde, j'adore la ville, l'idée de la ville, et j'adore le nom de la ville aussi, parce que je voulais avoir un enfant du nom d'Adélaïde, ça s'est pas fait finalement, mais j'aime beaucoup le Adélaïde, même le nom, voilà.
D'accord, ok, ouais, c'est une très belle ville d'ailleurs, et oui, j'allais y venir, vous êtes déjà venu à Sydney, il y avait la Biennale aussi pour laquelle vous étiez venu. L'Australie, vous connaissez le public australien, il est différent des publics européens. C'est un public qui est connaisseur, c'est un public qui est découvreur. Qu'est-ce que vous connaissez de ce public australien?
Alors, je suis pas venu depuis très longtemps et le Tensetat of Wattal n'est pas venu depuis très longtemps aussi. Donc, d'une certaine manière, on va se redécouvrir. Hein, le monde bouge très vite. Les questions des relations hommes-femmes bougent très vite aussi. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'on vient avec un programme. Bizarrement, c'est un programme à la fois très, je sais pas comment dire, il est pas choquant, mais il est, voilà. Quand je disais, on se le prend en pleine poire. Bon, il y a de la nudité dans les deux pièces que j'ai chorégraphiées. Il y a une sorte de dureté aussi dans la pièce de Café Müller parce que les danseurs se jettent sur les murs. Ont du mal à se trouver, se heurtent comme ça, donc quelque chose de très frontal. Et en même temps, ce sont des très anciennes pièces, hein, puisque Café Müller, ça date de 1978. Attention, ça a bientôt 30 ans aussi. Donc, c'est des pièces de répertoire. Mais par contre, l'association de ces trois pièces, ça, c'est un peu comme un précipité chimique. Elles n'étaient pas faites pour aller ensemble, on les met ensemble et ça nous secoue, nous, les danseurs, de danser ces trois pièces différentes et du coup la compagnie de se mettre en question un peu. Et puis, bien sûr, ça secoue aussi le public en théorie et on va voir comment le public australien réagit à ces pièces.
Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est vrai que vous le disiez, c'est des pièces à 1978, c'était on était en pleine liberté sexuelle. Donc, les relations hommes-femmes étaient tellement différentes d'aujourd'hui dans une époque où on discute par des apps et on se rencontre par des apps et des applis, on dit en français. Et donc, cette relation amoureuse, sensuelle, elle est complètement différente comme elle est aujourd'hui. On pourrait croire que, avec l'avancée du temps, on est beaucoup plus libre. C'est pas forcément vrai, en fait. Hein.
Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 78, la libération sexuelle, bon, elle est en question un peu aujourd'hui. Mais en tout cas, le travail de Pina est quand même beaucoup sur des mélancolies, des difficultés. Pina, c'est rarement l'amour naïf et joli, quoi.
C'est pas la comédie musicale Hair. On est loin.
Voilà,
on est très loin.
En ce sens-là, En ce sens-là, nos deux travaux sont proches parce que, par exemple, attention, le trio, les danseurs sont à la verticale. C'est une sorte de structure échafaudage à trois niveaux. Donc, la danseuse tout en haut danse à 6 mètres de haut. Et c'est vrai que les trois danseurs peut-être aimeraient se retrouver. Hein, mais c'est une pièce, en fait, bizarrement, quand on l'a créée, c'était les années Sida. On s'est mis à la rejouer au moment du Covid, parce que finalement c'était une pièce Covid, en fait, où les amants ne se trouvent pas, n'ont pas le droit de sortir de chez eux, donc il y a le fait que il y a un danger à se toucher et un danger à respirer le même air avec le Covid, et au fond cette pièce là résonne avec ces questions là donc c'est peut-être pas la libération sexuelle, bon, peut-être la dernière pièce, le duo de Hers, là c'est beaucoup plus l'utopie de la fusion de deux corps qui ne font qu'un, Johanna et moi, l'un est toujours le sol de l'autre, donc il y a quelque chose de très très charnel, mais aussi vraiment où on dépend l'un de l'autre totalement. Donc ça pourrait évoquer un peu plus, je sais pas si c'est la libération sexuelle, mais en tout cas quelque chose qui pourrait être positif vraiment dans l'amour, dans les corps, dans le désir. Mais globalement, c'est une soirée de secousses et de complexité.
Vous faites des représentations plusieurs soirs. Vous arrivez à les différencier, ou elles sont vraiment similaires, et c'est vraiment, enfin, est-ce qu'il y a une certaine liberté pour la créativité un petit peu quand même dans votre art, où tout est quand même bien cadenassé?
C'est des pièces assez écrites, hein, très écrites, donc elles sont fixes, je sais pas comment dire, et en même temps, et spécialement parce qu'elles sont anciennes, je dirais pas qu'on les improvise sur scène, c'est pas le mot, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expérience au moment où ça arrive. Et ce sont pas des pièces Café Müller, je crois que c'est vraiment valable pour le travail de Pina et pour le mien. On se met pas dans des rails et puis hop, on lance la locomotive et c'est parti. C'est vraiment des pièces où il y a un questionnement de pourquoi on bouge, pourquoi on va vers l'autre, où est-ce qu'on regarde. Et du coup, elles sont vraiment rejouées chaque soir. Donc, je dis pas que les six représentations vont être totalement différentes les unes des autres, mais il y a vraiment la sensation de ici et maintenant dans ces trois pièces.
Notamment si le public est autour de vous, en plus.
Voilà. Donc il y a vraiment, et je trouve que c'est ça qui est beau avec des pièces anciennes. En fait, il y a à la fois quelque chose qui est immuable, hein, le chef-d'œuvre de Pina Bausch, 1978, et quelque chose qui est au contraire en mouvement, en question, en essai, en interrogation. Qui est comment on va le faire ce soir, quelle énergie on aura ce soir, quelles émotions on aura ce soir, et vraiment avec le public, parce que bien sûr le public fait les pièces. Bon, dans mon travail, ils sont juste à côté des danseurs, donc on voit le public voit, se voit lui-même aussi, donc bien sûr il participe pas à ce qui se passe ou ce qui se passe pas, hein, parfois, et puis du coup il y a comme ça quelque chose de très vibrant, en fait, dans les représentations, ce qui fait qu'en général, un soir à l'autre, on ressort dans des états assez différents.
D'accord. L'espace en lui-même, vous devez vous l'approprier combien de temps avant ? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur les perspectives, l'espace de scène, l'espace public ? Et je fais juste un lien avec ça. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, je crois, vous aviez fait des spectacles spécialement dédiés dans les églises. Donc c'est un travail qui est sûrement complètement différent. Est-ce que ça veut dire que là, pour Adélaïde, il a fallu aussi s'adapter un petit peu, ou ça reste quand même globalement assez universel ?
Alors, on s'adapte, mais bon, c'est pour un opéra, pour un immense théâtre. Donc il y a eu des visites techniques avant d'arriver. On travaille beaucoup sur plan, on prépare. On arrive quelques jours en amont aussi pour s'installer. Mais c'est quand même... je dirais, on vient installer un spectacle qui existe. Donc, on l'a créé, par exemple, à l'Opéra de Wuppertal, où il y a moins de monde dans la salle. Donc, c'est un peu plus intime pour Café Müller. Il y a par contre, le plateau est un petit peu plus petit qu'à Adélaïde. Bref, il y a des variations comme ça. Mais je crois que la principale variation, ça va être le public, hein, quand même.
Ouais.
Dans ce cas-là, c'est peut-être qu'on était en Europe, on a joué à Berlin, on a joué dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de la France, à Valenciennes et à Amiens. Bon, là, on vient à Adélaïde, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on est à la fois très excités, hyper contents d'être là, mais on a aussi c'est pas une peur, mais
Il y a une petite appréhension, alors.
Oui, il y a une appréhension, une excitation, une compréhension de comment ça va se passer en Australie. Et... Mais c'est aussi ça le sel des spectacles.
Absolument. Enfin, ça s'appelle Club Amour. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du Festival d'Adélaïde. Donc, le lien sera sur notre site internet. Merci.
Merci beaucoup. Merci vraiment. J'ai hâte de vous retrouver. Ouais.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. Pas bien là, en vrai, qu'est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. On n'est pas bien là, en vrai, qu'est-ce qu'on est bien?
Ça va, ça vient, Slimane et Vita Slimane qui avait représenté la France, je vous le rappelle, à l'Eurovision l'année dernière. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Andrew McKenzie. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, chers auditeurs.
Alors, généralement, quand on vous appelle, c'est pour parler de Panache Adelaide French Theatre, mais... Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout à fait différent. C'est votre participation avec un ami, Chris Simpson, au Adelaide Fringe Festival au mois de février. Et vous allez présenter deux spectacles avec pour thème la belle France, des chansons françaises. Alors, d'abord, racontez-nous comment vous allez présenter ces spectacles.
Tout à fait. Peut-être un petit peu d'histoire parce que, effectivement, cette fois-ci, ce n'est pas Panache qui monte le spectacle, mais c'est une initiative privée de la part de Chris et moi. Et ça fait 60 ans, il y a 60 ans, nous nous sommes rencontrés à l'université, où nous étions tous les deux étudiants de français. Et tout de suite, nous avons commencé, nous avons trouvé un intérêt à la chanson, à la musique. Nous avons commencé à chanter ensemble. Chris joue de la guitare. Moi, je suis trop fainéant pour avoir pris un instrument musical, mais lui, il joue bien de la guitare. Et oui, donc effectivement, cette année, ça fait 60 ans qu'on est là et qu'on chante toujours des chansons, et surtout des chansons françaises.
J'allais dire, est-ce que vous avez commencé à chanter ensemble à la crèche?
Ah non, pas tout à fait.
Donc,
on était déjà à l'université.
D'accord, et donc vous étiez en train d'étudier le français, j'imagine.
Oui. Oui, c'est ça. Et on est tous les deux devenus profs de français. Au début, ça a continué comme ça. C'était surtout avec l'Alliance française, qui avait un groupe de théâtre, de cabaret, que nous nous sommes produits.
Ouais.
Et que nous avons chanté chaque année dans leurs spectacles de cabaret ou de café-théâtre. Et puis, avec fiction du temps, c'était avec Panache, quand Panache s'est formé en 2014. C'est avec Panache que nous avons continué à chanter. Et je dirais que chaque année, il y a un spectacle de cabaret ou une soirée musicale où nous présentons quelques chansons. Et donc, c'est comme ça que ça a continué. Et nous avons pensé à 60 ans. Et il faut célébrer ça. Et donc, on va se produire dans le Fringe. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà.
Parlez-nous de l'Adelaide Fringe Festival qui a lieu chaque année au mois de février.
C'est immense.
Ouais.
Vous pouvez pas imaginer combien c'est immense. Je ne sais pas combien de spectacles différents qui se produisent là. Combien de soirées de spectacles qu'on aura là, mais sans doute 1400 numéros, c'est énorme. Après Edinburgh, c'est un des plus grands fringes du monde, je crois. Et donc là, il y a du tout. Hein. Si vous voyez le programme, il y a du tout, du cirque, la magie, spectacle pour enfants, cabaret, comédie, et puis musique. Nous, nous nous trouvons sous la rubrique musique dans le programme, et c'est là que nous allons chanter nos chansons sur la belle France.
Et donc là vous êtes en pleine répétition. Est-ce qu'on peut parler du répertoire que vous allez présenter sur scène? Donc ce sont des chansons françaises.
Nous chantons des chansons françaises depuis très longtemps, comme je vous ai dit. Donc nous avons un assez grand répertoire et nous avons choisi quelques chansons traditionnelles que j'imagine que les Français apprennent en grandissant. Des chansons comme que nous trouvons très belles quand même, aux marches du palais, derrière chez nous, il y a la montagne, des petites chansons comme ça, assez simples mais belles. Et puis nous chantons aussi des chansons qui peut-être traditionnelles, mais qui s'orientent autour d'une région particulière, par exemple la Bretagne ou la Normandie ou la Provence. Nous avons un assez grand répertoire de chansons de ce genre. Et nous allons chanter quelques chansons bretonnes, peut-être une strophe en breton d'une chanson, mais pour la plupart c'est en français. Et puis nous chantons aussi beaucoup de chansons d'auteurs, des auteurs comme Brassens ou Brel, Boris Vian, des chanteurs, compositeurs, interprètes de cette envergure-là.
Et donc, d'après ce que je comprends aussi, les chansons que vous allez présenter seront accompagnées de surtitres, c'est ça?
Oui, exactement. Oui. Il n'y a pas beaucoup de francophones à Adélaïde. Et pour encourager les gens à venir au spectacle de Panache, nous préparons toujours des surtitres pour les pièces ou pour les cabarets. Et Chris et moi, nous faisons la même chose. Nous mettons ou bien une traduction ou bien un résumé en anglais de la chanson que nous chantons nous espérons que ça aidera le public à comprendre. Quelques chansons sont... nous chantons une chanson comique où c'est bien de pouvoir suivre ce qui se passe, parce que comme ça, il y a plus de chances d'avoir des rires dans le public. Mais pour le reste, ce sont des chansons, quelques chansons du 19e, et puis des chansons de la grande tradition, la chanson française de l'après-guerre, des cabarets de la rive gauche, etc.
Et donc, j'imagine que beaucoup de vos élèves viendront vous voir.
Alors, si j'avais encore des élèves, oui, peut-être. Mais je suis bel et bien à la retraite en ce qui concerne l'enseignement. Mais nous espérons que beaucoup de nos amis, et bien sûr toute notre famille, viendront nous voir. Nous chantons au Star Theatre. C'est là que Panache présente beaucoup de ses spectacles. Et là, il y a une belle petite salle là, 70 personnes, et un bel acoustique. Et je crois que nous allons réussir à remplir la salle deux fois, je crois. Et si c'est comme ça, on sera content.
Et donc, pour plus de détails, j'imagine que les gens peuvent aller sur un moteur de recherche et chercher Adélaïde Fringe Festival.
Oui, c'est ça. Vous allez sur le site du Fringe. Et là, vous suivez les directions pour arriver sur le site de chaque spectacle. Ils sont tous là. Et sur le site, il y a aussi la section pour faire des réservations, etc. Donc, on fait tout ça à travers le site de Adelaide Fringe. C'est adelaidefringe.com.au. C'est tout. C'est très simple.
Et donc, le rendez-vous, c'est le dimanche 23 février. Il y aura deux spectacles. C'est au Star Theatres à Hilton.
Oui, c'est 14h et 19h30. Oui, le 23 février. Oui. Au Star Theatre 2 à Hilton. Oui, exactement.
Andrew Mackenzie, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS. Et on vous souhaite les meilleurs vœux pour ces deux spectacles.
Merci. Je sais que cela va nous faire plaisir à nous deux, et nous espérons faire plaisir aussi à notre public.
Merci et à très bientôt.
À très bientôt et merci et au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Nos plus belles années, Grand Corps Malade, Kim Rose sur Radio SBS en ce dimanche. Voilà, c'est tout pour notre émission en ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.